Bonsoir à tous, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Chroniques de la Vieille Europe. Alors, pour m'accompagner ce soir, Philippe Christel et Pascal Essérig. Bonsoir, messieurs.
Bonsoir, Patrick. Bonsoir aux auditeurs.
Alors, on va poser la question parce que tous les médias l'ont dit. Est-ce que vous êtes Charlie ou vous n'êtes pas Charlie, Philippe?
Ah non, moi je suis pas Charlie.
Pascal?
Non, je ne suis pas seul.
Voilà, voilà, moi non plus. Donc le sujet est clos.
Ah, j'avais pas préparé ma réponse. Hein. Vraiment là, on est pris comme ça au dépourvu.
Ouais, c'est un peu le côté direct comme ça. J'avoue que ma première
question. Failli mollir là. Hein.
Ma première question était un peu difficile. Bon, ce soir, je vais
2015. On sent que 2015, ça rigole plus. Hein.
Non, ça rigole plus. Ce soir, moi, par contre, je vais être un peu en vacances car nous avons plusieurs parties et c'est Pascal Essérig qui nous a organisé notre programme. Alors, en première partie, nous allons avoir par téléphone Gilles Munier, secrétaire des amitiés franco-irakiennes, où nous essaierons d'avoir un éclairage sur la situation en Irak. Vous nous le présenterez tout à l'heure, mon cher Pascal. En deuxième partie, pour changer un peu, nous retrouverons Philippe Christel avec qui nous ferons le point de l'actualité européenne. Et dans notre dernière demi-heure, nous aurons par téléphone Laurent Chang, journaliste à la revue Éléments, mais aussi responsable des éditions Le Polémarque, qui va sortir, et c'est quand même exceptionnel, un inédit de Jean Mabir sur la figure d'Émile Drian, officier, mais surtout écrivain plus connu sous le nom de d'Henri. Et Pascal, vous nous parlerez d'une enquête passionnante aussi que vous avez lue sur les fameux Young Leaders. Voilà, un programme chargé dans ces chroniques de la vieille Europe. Donc, en attendant que la technique nous mette en contact avec Gilles Munier, qui est en ce moment en Irak, je vous laisse, mon cher Pascal, nous le présenter.
Alors, tout d'abord, Gilles Munier n'est pas en Irak. Il est en Bretagne.
Ah bon? c'est presque à côté.
Non, mais en revanche, nous accueillons avec Gilles Munier.
Mieux quand même qu'il est en Irak. Non,
en Bretagne.
Allez-y.
L'un des meilleurs spécialistes de l'Irak, sinon le meilleur. Et nous l'accueillons pour deux raisons. La première, donc, parce que Gilles Munier a consacré une passionnante présentation des Yézidis aux éditions Éric Bonnier. Et la deuxième, parce que la situation en Irak, et plus largement dans la région, exigeait une parole experte pour nous parler des agissements de Daesh, ce groupe de djihadistes qui semble reléguer Al-Qaïda au rang d'antiquité. Alors, Gilles Munier, commençons d'abord par le sort des Yézidis, puisque vous faites paraître chez Éric Bonnier les Yézidis, ceux qu'on appelait les adorateurs du diable. Bonjour, Gilles Munier.
Bonjour.
Alors, dites-nous, les Yézidis, est-ce que vous pouvez nous en faire une présentation?
Oui, une présentation. Bon, moi, je connais l'existence des Yézidis depuis les années 74-75, puisque c'est à partir de ce moment où je me suis rendu assez régulièrement, même très régulièrement, en Irak, puisque j'y ai effectué jusqu'en 2003 environ 150 voyages, et j'ai consacré à ce pays un guide de l'Irak qui est paru en 2000, où je parlais déjà des Yézidis, alors que personne ne s'y intéressait. Mmh. Voilà, alors donc... à partir de 1995, j'y suis allé beaucoup plus régulièrement. J'y suis allé d'abord en 1995 à l'occasion d'un référendum qui était organisé par Saddam Hussein pour sa réélection pour une période de 7 ans. Et ce qui m'a permis, je me suis dit, puisque personne n'allait dans cette région-là, on avait l'autorisation, tous ceux qui étaient invités comme observateurs avaient la possibilité d'aller, les journalistes ou les autres, d'aller n'importe où en Irak avec voiture, chauffeur. Tous les journalistes restaient à Bagdad et ne s'intéressaient pas à comment voter ou aux populations qui existaient pourtant principalement dans le nord du pays, dont les Yézidis. Donc j'y suis allé, et c'est à partir de là que, ayant fait la connaissance d'un certain nombre de chefs des Yézidis, que j'y suis retourné, que je me suis passionné pour leur histoire.
Est-ce que c'est à ce moment-là où votre chauffeur, ce premier voyage, votre chauffeur sunnite vous met en garde contre les Yézidis? Il vous dit ils sont sales, ils ne se rasent pas, ils ne portent pas de cravate, de peur qu'on les étrangle. Ce sont des jeteurs de sorts. C'est à ce moment-là.
C'était avant. C'était lors d'un voyage que j'avais effectué au Kurdistan, juste après la fin des combats entre entre les Kurdes de Barzani qui avaient été laissés tomber par les Américains et qui s'étaient repliés sur l'Iran et les États-Unis. Et donc j'en avais profité pour visiter la grande partie du Kurdistan, et c'est à l'occasion de ce voyage qu'on m'avait parlé de cette façon des yézidis, donc j'ai voulu aussi vérifier si c'était vrai, quoi. Mmh.
Alors, qui sont ces yézidis?
C'est un des plus vieux peuples, enfin, nous sommes tous de vieux peuples, mais y compris ceux de la vieille Europe, bien sûr. Mais en fait, c'est une très vieille religion, hein. C'est une religion qui, quand même, remonte à peu, en ce qui les concerne, ce qui déclare, si vous voulez, qui remonte à 6000 ans. Mmh. Donc, une religion plus ancienne que la religion juive, par exemple, hein. Mmh. Mmh. Qui remonte à avant le zoroastrisme, c'est-à-dire la religion, disons, réformée, le mazdéisme réformé par Zarathoustra, donc ça remonte à l'antéchrist, même, bien plus loin. Donc c'est une religion, ce sont des gens respectables, qui évidemment, dans la mesure où leur religion existe depuis tant d'années, au long des années, finalement, c'est fondu, ou à emmagasiner, si vous voulez, des éléments d'autres religions, par exemple, et pour la plus récente, de l'islam, dans la mesure où toutes ces régions étaient islamisées à partir des conquêtes de musulmanes, ils avaient le choix, hein, ou se convertir ou mourir. Donc ils ont choisi apparemment de se convertir tout en pratiquant leur religion en secret.
Le grand public a appris finalement la connaissance des yézidis le 3 août 2014, au moment de la prise de la ville irakienne de Sinjar par les djihadistes de l'État islamique, qui a provoqué cette fuite de près de 200 000 personnes.
Oui.
Et c'est à ce moment-là que les médias internationaux se sont intéressés. Alors vous qui les connaissez, qui les avez fréquentés, puisque vous êtes allé à plusieurs reprises dans leur dans leur sanctuaire, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ils ont pu tout au long des siècles finalement s'intégrer dans cet espace?
Cet espace, ils l'occupaient depuis toujours, parce que finalement les premiers habitants de la région du Kurdistan avaient la religion, disons, yézidi sous la forme où elle existait à l'époque. Bon, après l'islamisation de ces régions, ils occupaient principalement une région qui va du Kurdistan actuel jusqu'à Sinjar, qui est au sud. Mais également, il existe des yézidis, parce que le Sinjar, c'est une montagne, c'est un djebel, et assez haut d'ailleurs, et où d'ailleurs ils ont survécu longtemps, c'est parce que ils s'y protégeaient. Il existe aussi des yézidis en Syrie, en Arménie, en Géorgie, pas simple, et en Turquie bien sûr, puisque c'est voisin. Donc il existe des yézidis un peu partout. En Irak, ils sont environ 600 000, mais ce sont les survivants des yézidis. Il y en aurait beaucoup plus s'ils n'avaient pas été massacrés périodiquement par les Turcs ottomans et par les Kurdes. Parce que lorsque Joachim Menand, dont j'ai présenté l'ouvrage qui date de 1892, dans sa préface, il s'inquiétait de la situation dans la région en disant que l'émir kurde Bedir Khan, qui est aujourd'hui considéré comme un ancêtre du nationalisme kurde, avait fait égorger plus d'un millier de yézidis aux portes de Mossoul. Donc bien plus que le calife Ibrahim aujourd'hui avec son organisation Daesh.
Alors, on s'aperçoit que finalement, à vous lire, que l'Irak était resté jusqu'à présent comme un véritable conservatoire religieux.
Tout à fait. En Irak, on parle des malheurs des yézidis, on parle des malheurs des chrétiens d'Orient, mais enfin parfois on oublie que depuis la dernière invasion américaine de 2003. Les principales victimes civiles de l'invasion de la guerre sont les chiites et les sunnites qui sont morts par centaines de milliers. Oui, c'est un creuset de religions. Il y a les chiites, les sunnites, les kurdes qui sont sunnites ou chiites pour certains, les turkmènes, parce qu'on ne parle jamais des turkmènes, mais les turkmènes sont environ 3 millions en Irak, et ils existent, ils sont opprimés en partie par Daesh ou par les kurdes. Bon, vous avez les yézidis, vous avez des chrétiens d'église romaine ou évangéliste, les shabaks, que l'on n'en parle non plus jamais, les mandéens. Les mandéens, ce sont qui sont les mandéens? Ce sont des gens qui se réclament de Saint Jean-Baptiste, et qui considèrent que Jésus, qui était mandéen, enfin, qui a été, disons, baptisé par Saint Jean-Baptiste, a trahi sa religion, qui était le mandéisme. Oui, et puis il y a d'autres sectes islamiques et soufis.
Alors, pour bien comprendre les enjeux, pourquoi Daesh s'en prend aux yézidis, et on a bien et d'une manière générale aux yézidis, mais aux chrétiens, quel est leur but de guerre?
De toute façon, Daesh s'en prend principalement aux minorités qui ne sont pas musulmanes, et s'en prend d'abord à ces minorités non musulmanes. Pour les yézidis, en ce qui concerne les yézidis, donc il y a eu cet exode de la population de Sinjar, de la ville de Sinjar et du Djebel Sinjar, parce qu'ils, pour eux, ce sont des adorateurs du diable, donc évidemment des gens à convertir ou à éliminer d'abord, hein. Concernant les chrétiens qui ont fui, etc., qui se sont réfugiés au Kurdistan, également, ils veulent faire simplement table rase, avoir simplement une population de religion musulmane, et musulmane, pas simplement musulmane, parce que tous ne sont pas d'accord avec la secte que représente Daesh, qui est une secte wahhabite, extrémiste, qui est totalement différente de tout ce qu'a été l'islam jusqu'à la prise de l'Arabie par les wahhabites.
Alors, je voudrais que pour les auditeurs, vous établissiez finalement une généalogie à la fois d'Al-Qaïda et de Daesh. Quelle est la différence et sur quel point peut-être peuvent-ils se retrouver?
Le fondateur, si vous voulez, l'origine, disons, des groupes extrémistes islamiques de tendance plus ou moins wahhabite remonte, disons, à 2002, avant l'invasion 2002, avant l'invasion américaine, où il y avait un petit groupe d'islamistes qui réfugiés au nord de Halabja au Kurdistan, et dont ni Barzani, chef du Kurdistan, ni Talabani, l'autre chef du Kurdistan, n'arrivaient à se débarrasser. D'ailleurs, à l'époque, Tariq Aziz m'avait dit, ils nous ont demandé de les en débarrasser. On veut bien donner quelques armes, mais enfin, on n'a pas le droit non plus d'aller là-bas. Puis ils avaient aussi, le régime de Bagdad, à l'époque, avait aussi d'autres chats à fouetter, puisque il était sous embargo et les Américains allaient attaquer. Est arrivé dans cette portion de territoire un individu qui s'appelle Abu Moussa al-Zarqawi. Zarqawi, c'est un Jordanien qui avait créé un camp d'entraînement en Afghanistan, disons un camp d'entraînement différent au niveau objectif et religieux de ceux organisés par Ben Laden. Zarqawi donc est arrivé dans cette région via l'Iran. Il a quand même pu passer par l'Iran, donc ça veut dire qu'il avait quand même de bonnes relations avec le régime et avec les services secrets iraniens à l'époque. Il s'y est installé. Lorsque les Américains ont attaqué l'Irak, ils ont aidé Barzani à se débarrasser de ces gens-là, qui sont entrés en Irak. Ils sont entrés en Irak sous le disons en c'était mars, disons en avril, grosso modo en avril 2003, et sous le nom d'une organisation qui s'appelait Tawhid wal Jihad, ça veut dire unification et guerre sainte, que dirigeait donc Zarqawi. Cette organisation rapidement s'est transformée en Al-Qaïda au pays des deux fleuves, avec l'accord d'ailleurs de Ben Laden, qui trouvait finalement que ça lui permettait d'avoir des représentants en Irak, même s'il n'était pas tout à fait d'accord avec leur méthode expéditive, parce que Al-Qaïda au pied des deux fleuves, ou Al-Qaï, c'est-à-dire Al-Qaïda en Irak, était très critiqué par Ben Laden pour ses massacres de chiites. Zarqawi, donc, a perpétré un certain nombre d'horreurs en Irak à l'époque, pas simplement contre les Américains, mais aussi contre les organisations de la résistance irakienne, parce qu'il s'en est pris aussi, et surtout pendant toute une période, aux organisations de la résistance irakienne, qui n'étaient pas toutes bassistes, hein, qui simplement luttaient contre les Américains. On s'est posé la question à l'époque d'ailleurs de savoir s'il n'y avait pas une relation entre certains milieux de la CIA et Zarqawi. Finalement, il est mort dans un bombardement de F-16 en juin 2006, puis remplacé d'abord par un Égyptien, ensuite par un Irakien qui s'appelait Abu Omar el-Baghdadi, qui a été tué également dans un bombardement, et ensuite donc par Abu Bakr al-Baghdadi, l'actuel émir, disons, l'actuel calife de l'État islamique.
Oui, Gilles Munier.
Une filiation, si vous voulez, pas avec Ben Laden, mais disons avec Zarqawi, avec Zarqawi, et puis derrière Zarqawi, qui ? C'est la question qu'on se pose.
Vu d'Europe, on a l'impression quand même que cet État islamique est arrivé du jour au lendemain. Après la guerre des Américains, on pensait que les chiites allaient prendre vraiment tout le pouvoir en Irak. Est-ce qu'il y a eu des alertes ? Est-ce que les services, que ce soit les services secrets américains ou même européens, ont vu cette progression ? Ou alors est-ce qu'ils ont été surpris ? Est-ce qu'il y a eu une alerte ? J'ai l'impression que l'Europe et l'Amérique, du jour au lendemain, s'est réveillé avec un État islamique devant eux.
Non, un État islamique ne peut pas se créer comme ça, d'un seul coup, allant de la Syrie jusqu'aux portes de Bagdad. C'est une opération pareille, comme l'opération peut-être de la prise de Mossoul en juin, ne se fait pas comme ça en 5 minutes, simplement parce que des agents de djihadistes arrivent dans des Toyota toutes neuves. Et d'ailleurs, on pourrait se poser la question, toutes ces centaines de Toyota toutes neuves, fallait bien les acheter quelque part, ça passe pas inaperçu, hein, tout ça. Hein. Donc les services occidentaux, le service secret irakien, les services jordaniens savaient très bien que quelque chose se préparait. Et certains peut-être même y participaient, simplement que, à mon avis, ils ont été dépassés par Abu Bakr al-Baghdadi et son opération. C'est-à-dire que, finalement, aujourd'hui, qui combat sur le terrain sinon les islamistes ? Il n'y a plus de nationalistes arabes. Il y a un encadrement, si vous voulez, dans toutes ces régions fait d'anciens officiers de l'époque de Saddam Hussein, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont tous bassistes au sens saddamiste du terme, mais qui sont des gens compétents, puisqu'ils ont combattu quand même pendant plusieurs guerres. Mais disons, les gens qui sont sur le terrain et qui combattent, ce sont des djihadistes.
Je voudrais qu'on revienne sur le rôle des Kurdes protecteur ou par rapport aux yézidis, protecteur qui intentent des actions, enfin qui intentent des actes de guerre contre les yézidis. On a du mal à cerner leur rôle.
Protecteur et manipulateur, parce que bon, on a beaucoup parlé de la prise de Sinjar, évidemment par Daesh, mais enfin si Sinjar a été prise, c'est la ville, si les yézidis ont fui, c'est que cette ville était protégée justement par l'armée, les Peshmerga de Barzani. Simplement qu'à 3h du matin, le général qui commandait cette zone-là reçut un ordre de Barzani pour lui dire de quitter les lieux, de rentrer au Kurdistan, c'est-à-dire dans la région autonome du Kurdistan. Donc à partir de ce moment-là, ça a laissé la voie ouverte aux gens de Daesh. Alors il y en a qui disent que, évidemment, Barzani a donné cet ordre-là parce qu'il est en train de négocier. Il voulait montrer à Obama qu'il n'avait pas suffisamment d'armes pour combattre Daesh, et que ça allait impressionner certainement Obama et les gens du Pentagone pour lui fournir un armement sophistiqué, ce qui d'ailleurs a été le cas ensuite. Maintenant, d'un autre côté aussi, il faut considérer que les Kurdes, c'est pas non plus, vous avez d'un côté, vous avez Barzani, mais d'un autre côté, vous avez Ocalan en Turquie.
Turquie
qui est emprisonné. Les Kurdes de Syrie qui sont proches du PKK combattent également, soutiennent les Yézidis. D'ailleurs, c'est eux qui les ont soutenus le plus longtemps, avant que les Peshmerga de Barzani, parce que les Peshmerga de Barzani sont arrivés bien après que après, je sais pas après les combats, mais disons la résistance dans les monts Sinjar était surtout le fait de Yézidis et de gens de Kurdes de Syrie. Alors bon, il y a un jeu aussi dans les Kurdes, parce que bon, Barzani c'est un chef kurde, certes historique du fait de son père et de son histoire, mais qui c'est quand même un chef féodal, c'est-à-dire là-bas quelqu'un qui a des serfs toujours. Mm-hmm. Bon, tandis que le parti, le PKK, c'est un parti disons ex-communiste, marxiste, qui n'a rien à voir du tout avec, qui n'avait surtout rien à voir avec les féodaux, et qui veut aujourd'hui créer un canton kurde semi-autonome ou autonome au niveau du Sinjar, qui se rattacherait au Kurdistan syrien. Donc il y a aussi un combat entre les Kurdes, d'influence entre les Kurdes concernant les zones où vivent les Yézidis. Et puis maintenant il y a l'entrée en jeu d'Israël. Parce que dernièrement, c'est-à-dire la semaine dernière, mm-hmm. un chef de milice yézidi qui dit que sa milice est forte d'environ 12 000 combattants, et c'est possible, a fait appel à Israël pour avoir des armes et de l'entraînement.
Ah d'accord, c'est une manière d'un acteur supplémentaire dans cette zone, et c'est la question aussi de l'avenir de cette zone, l'avenir de l'Irak. Est-ce que à terme, l'implosion, est-ce que vous voyez une implosion de l'Irak?
Ben, l'implosion, en fait, elle est de fait déjà actuellement, puisque d'un côté, vous avez ce califat islamique, que de toute façon, avant la création du califat islamique en question, toute la région d'Al-Anbar, c'est-à-dire la région qui va des portes de Bagdad jusqu'à Mossoul, n'était pas contrôlée par le gouvernement irakien. Donc, aujourd'hui, 10 ans après, de guerre civile après, des milliers de morts après, évidemment, et aussi l'entrée en jeu, parce qu'on en parle peu, mais également de l'Iran, qui joue un rôle de plus important en Irak, dans les parties chiites. Donc l'Irak n'existe plus. L'Irak tel qu'on l'a connu n'existe plus.
Et l'avenir, et dans tout ça, l'avenir des Yézidis, qu'on a souvent appelé les adorateurs du diable. Vous faites un sort d'ailleurs à cette réputation dans le livre. Qu'en est-il? Finalement, il reste combien de Yézidis sur place?
Sur place, on disait, à l'époque de Saddam Hussein, on disait 600 000 Yézidis, grosso modo, en Irak. Simplement que, quand on disait 600 000, c'est-à-dire ceux qui étaient en Irak kurdes, hein, et dans la partie arabe. Simplement qu'au Kurdistan, les Kurdes considèrent les Yézidis comme des Kurdes, et au sud, les Arabes considèrent les Yézidis comme des Arabes de religion yézidi. En fait, les Yézidis, eux, se considèrent avant tout comme Yézidis, dans la mesure où ils se marient entre eux, et entre castes, et entre clans, depuis l'aube des temps. Donc, je veux dire, c'est des gens tout à fait à part, même au niveau physique. D'ailleurs, au niveau physique, ce sont vraiment des Indo-Européens.
C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez décrire leur mode de vie?
Ben, leur mode de vie, c'est un mode de vie assez particulier, qui est lié à leur religion, hein, parce que d'une part, ils vivent en caste, un peu comme les Indiens, les Hindous, si vous voulez, mm-hmm. Aujourd'hui. Ce sont des gens qui croient à la métempsychose et à la transmigration des âmes, c'est-à-dire qu'ils pensent que lorsque l'on meurt, on revit en un autre corps. Si on a fait le bien sur Terre, on revit dans un être meilleur. Si on a fait le mal, jusque dans un animal, jusque dans le corps d'un animal. Mais on peut ensuite remonter dans l'échelle. Donc ils ont une religion tout à fait à part. On les a appelés adorateurs du diable. Pourquoi? Pas simplement parce que ils croient en en quelqu'un qui s'appelle Malek Taous, qui était le chef des anges au ciel. Malek Taous a été banni un peu comme le diable l'a été, mais enfin c'est un peu la même, de toute façon c'est toujours la même histoire, sauf que raconté par les Yézidis, ça a été raconté bien plus avant que par les Juifs ou les chrétiens. Malek Taous a été banni parce qu'il a refusé de se prosterner devant Adam. Bon, pourquoi a-t-il refusé de se prosterner devant Adam? Parce qu'il vénérait Dieu, il considère qu'il n'avait pas, lui, ange, à se prosterner devant un homme. Bon, simplement, il n'a pas été banni pour eux jusqu'à la fin des temps, la faute n'étant peut-être pas si grave, ou Dieu, dans sa grande bonté, l'a réintroduit dans le corps des anges et à la tête des anges au bout de 7000 ans. Donc c'est une religion, vous savez, tout à fait particulière, tout à fait étrange pour nous qui la connaissons mal, mais pour moi qui ai vécu avec eux, qui suis allé dans leur ville sainte, etc. Je peux dire qu'ils n'ont rien à voir avec le diable tel qu'on le considère ici en Europe.
Alors dans son article dans Éléments, Christian Boucher indique que ça m'a fait sourire qu'ils ont bien sûr des interdits alimentaires. Ils doivent les Yézidis doivent s'abstenir de consommer des choux-fleurs,
des salades.
Oui, des salades. C'est pourquoi?
Oui, parce que bon, dans leur légende, disons, dans leurs histoires, à un moment donné, disons, Malek Taous s'est caché derrière qui est représenté par un paon. Un paon, parce que un paon, c'est quand on disait que le chat d'Iran était sur le trône du paon, un paon, ça représente quelque chose dans toutes ces régions anciennes zoroastriennes. Et donc, il s'est caché derrière une salade, et donc, la salade l'ayant protégée, il ne faut pas la manger.
Bah écoutez, on va en finir là. Merci beaucoup Gilles Munier pour votre témoignage. Et puis je crois qu'il y a un livre.
Oui, je vais rappeler le livre Gilles Munier fait paraître donc aux éditions Éric Bonnier le récit de Joachim Menant, les Yézidis, ceux qu'on appelait des adorateurs du diable. Et dernière petite question, Gilles Munier, je crois que vous préparez un ouvrage.
Oui, un ouvrage sur Daesh, si vous voulez, d'une certaine façon. Sur comment tout ça est arrivé, si vous voulez. Comment on en est arrivé à ce qu'il y a aujourd'hui, au califat, et comment ça s'est plus ou moins préparé à Amman à un moment donné, et comment l'affaire a, disons, mal tourné par ceux qui l'ont préparé. Et puis maintenant, quand on voit ce qui s'est passé aujourd'hui, ou je ne sais pas s'il a été brûlé, mais enfin le pilote jordanien qui a été brûlé dans une cage aujourd'hui, on est un peu horrifié.
Bien sûr. Ce sera peut-être l'occasion de vous inviter cette fois-ci dans les locaux de Radio Courtoisie.
Ouais, avec plaisir.
Merci bien. Nous, on va faire une légère pause. Vous êtes toujours dans les Chroniques de la Vieille Europe et sur Radio Courtoisie. On va faire une petite pause musicale, puis on va retrouver l'actualité européenne avec Philippe Christel. Voici notre deuxième partie de ces chroniques de la vieille Europe. Vous êtes toujours sur Radio Courtoisie, puis on retrouve là exceptionnellement, enfin comme ça, voilà, cette année on va un peu changer, ça va être nos petits changements, mais par contre c'est toujours l'actualité européenne, c'est toujours avec Philippe Christel. Mon cher Philippe.
Bien, écoutez, je ne vais pas chercher l'originalité. La dernière fois que nous nous sommes parlé à ce micro, on a essayé de dresser une sorte de bilan de l'année 2014 et de tirer un certain nombre de perspectives pour 2015. Et j'avais donné trois axes majeurs. Le premier étant l'accroissement de la zone de tension organisée par les Américains et l'OTAN entre l'Europe continentale et la Russie à l'aune de l'affaire ukrainienne. Il y a eu évidence. évidemment entre ces quatre, dans ces quatre semaines un certain nombre de développements, puisqu'on est tout près aujourd'hui, je vais y revenir, mais de parler de solutions militaires pour l'Ukraine. Le deuxième élément que j'avais cité était l'ensemble des tendances et des tensions à la fois centrifuges et centripètes qui risquaient de peser sur l'Union européenne. Et à l'évidence, le résultat du scrutin grec d'il y a quelques jours participe de ces bouleversements ou pas. Et c'est d'ailleurs ça qu'il conviendra d'étudier. Et donc en tout cas sur ces deux sujets, je pense qu'il y a des choses à dire et c'est ce que je voudrais évoquer avec vous ce soir.
Eh ben on y va.
Peut-être la première chose, tout a été un peu dit sur la victoire de Syriza en Grèce, et même si personne ne nous demande notre avis, je pense qu'on va le donner. Enfin, en tout cas, je vais donner le mien. Parce que je crois que bon, nous sommes en France, nous sommes dans un bon vieux pays qui n'est pas totalement démarxisé ni depuis 45 ni depuis en fait la conspiration des égaux et Gracchus Babeuf, et donc on a entendu à peu près tout et n'importe quoi avec un petit peu de démagogie, et pourtant la démagogie est plutôt née sur les collines de l'Attique que sur les bords de Seine, mais à l'évidence nous savons reprendre ces bonnes vieilles recettes, et donc on a eu une classe politique quasi unanime pour désirer d'une part, saluer ensuite la victoire de Syriza. Je passe sur, bien évidemment, ce qui a été dit à gauche, à la gauche de la gauche et au Parti Socialiste, qui ne manquait pas de sel. J'y reviendrai sur ce qui a été dit au Front National. Je pense qu'il y avait mieux et différent à dire, c'est un petit peu décevant, mais j'y reviendrai. Seuls ceux qui n'ont pas dit trop de bêtises sont les gens de l'UMP, mais parce qu'ils n'ont pas dit grand-chose.
Ils n'ont pas parlé.
Guénot a eu, à mon avis, plutôt l'analyse la plus intéressante. Mais ce que je veux dire, c'est que on a derrière cette victoire électorale qui repose pour le coup sur des promesses, de larges promesses. Potentiellement très démagogique, hein. Les jours qui viennent vont nous montrer et vont montrer aux Grecs si Syriza est capable de tenir ses promesses dans la durée.
Enfin, plus la campagne avançait, plus quand même il y avait certaines promesses, surtout la confrontation avec l'Europe, hein. On sentait que...
Oui, mais je vous rappelle que jusque, si je prends un exemple très concret, jusqu'au dernier moment du scrutin, l'enjeu de Syriza, c'est de dire je vais faire annuler tout ou partie de la dette du pays. On est à une semaine passée l'investiture et déjà ce n'est plus le sujet. Hein? Donc voilà. Mais donc on sait par définition que dans tout système électoraliste, il y a loin de la coupe aux lèvres entre la campagne électorale et la réalisation des promesses. Et en ce sens, ce n'est pas là-dessus que je voudrais donner des leçons. D'ailleurs, j'ai pas de leçons à donner aux Grecs. Ce que je voudrais quand même, je voudrais quand même qu'on rappelle, c'est que d'abord, Syriza a fait élire sur ses listes, pour la première fois, trois députés turcs sur les circonscriptions de Thrace orientale. Voilà. Ça ne surprendra pas ceux qui connaissent la genèse de ce mouvement politique, mais je voudrais qu'on se rappelle que Syriza est quand même d'abord un parti internationaliste, et ses prises de position sur la situation catastrophique de la submersion migratoire en Grèce aurait dû participer du jugement qu'il eût fallu porter sur la campagne de ce parti dès lors que on se range dans le camp des patriotes. Premier point. Il est évident qu'un certain nombre de mesures prises immédiatement par Tsipras et Syriza peuvent nous réjouir. La décision de suspendre sine die la privatisation du port du Pirée est à l'évidence
une bonne nouvelle,
une bonne décision. Comptablement, c'est une mauvaise décision, puisque, on va y revenir, le problème de la Grèce, c'est sa dette, et il faut bien combler cette dette. De là à vendre des actifs aussi stratégiques, actifs économiques aussi stratégiques que les infrastructures, notamment portuaires, comme le Pirée, indépendamment de la charge symbolique, historique et identitaire, je pense que c'était une décision qui fait plaisir. On peut également reconnaître le choix d'avoir mis
le représentant du parti de droite souverainiste et qui est le petit partenaire de la coalition au poste de ministre de la Défense. Je rappelle que la Grèce est avec la France et la Grande-Bretagne un des trois pays qui consacrent un effort de défense nationale comparativement au PIB, qui sont en deçà des normes de modernisation régulière d'une armée, mais qui sont au-delà de tout ce que peuvent faire les autres pays d'Europe qui ont renoncé à toute puissance. Et, soit dit en passant, la Grèce achète des armes françaises, ce qui ne gâche rien. Ils sont pas si nombreux que ça, ceux qui tous achètent des armes, en tout cas en Europe. Par ailleurs, la Grèce est quand même notre fantassin, notre vigie face à l'hégémonie turque, puisque, si j'ose dire, les sentinelles des Thermopyles sont plutôt aujourd'hui sur la mer Égée. Et en cela, il y a, semble-t-il, une relative continuité nationale dans la politique grecque. En revanche, je voudrais que nous ne tombions pas dans l'illusion de ces fameuses ripostes aux politiques d'austérité. On a à peu près tout entendu sur ce pauvre peuple grec qui était matraqué d'austérité, sur ce peuple grec qui était la proie des fonds vautours, des banquiers, etc. Je crois que, là encore, ceux qui disent la loi au micro des radios et des télévisions en France sont les mêmes, c'est-à-dire une caste de politiciens et de journalistes qui ont en tout cas un point commun, même s'ils ne partagent pas les mêmes idées politiques, c'est qu'ils n'ont jamais mis un pied dans l'entreprise et qu'ils ne connaissent pas le fonctionnement de l'économie réelle. Premièrement, je voudrais rappeler que ça fait longtemps, bien longtemps, que les fameux fonds divers ont cessé de financer la Grèce, puisqu'il y a longtemps, bien longtemps, qu'ils ont vu que la situation allait dégénérer dans celle que nous connaissons et qu'ils ont retiré leurs billes avec un certain nombre de remboursements, malgré abandon de toute ou partie de leurs créances. Et qu'aujourd'hui, ceux qui ont prêté aux Grecs, comme plus aucun acteur privé ne veut prêter à la Grèce, et je vais revenir sur les causes, ceux qui prêtent aux Grecs, ce sont les États. Et parmi les États, il y a l'État français qui, dans ses grandes largesses, a payé pour la Grèce et continue de payer pour la Grèce. Je crois, alors ça dépend des calculs qu'on sort, mais on peut considérer que chaque citoyen français assujetti à l'impôt a une dette, enfin est créditeur de plus de 800 euros sur la nation grecque. Bien. La Grèce est un pays qui, depuis 30 ans, tout gouvernement confondu, fonctionne avec un cycle fou. J'emprunte, je dépense, je redistribue sans produire. Et après, on s'étonne que la Grèce ne puisse plus rembourser. La Grèce a fait un choix de pays démocratique, de pays libre de son destin, libre des gouvernements qu'il a décidé d'élire, a fait un choix de truquer ses comptes pour rentrer dans l'Union européenne. Il est probable que l'Espagne et le Portugal aient fait de même. Et, parenthèse dans la parenthèse, on voit donc a posteriori à quel point cette idéologie du marché unique a été imposée aux forceps en truquant des règles comptables ou en acceptant de recevoir des documents comptables truqués pour faire passer la
pilule. Oui, parce que je pense que l'Europe
est pas dupe. Bien sûr. Quand on écoute Valéry Giscard d'Estaing, qui était relativement à la manœuvre dans les négociations préparatoires à l'adhésion de la Grèce à ce qu'était à l'époque la Communauté économique européenne, l'aveu est quasiment signé, même s'il s'en défend. La Grèce est un pays qui fonctionne aujourd'hui, qui accepte encore de fonctionner quasiment sans cadastre, est un pays qui accepte d'avoir une fiscalité quasi nulle sur des parts importantes de son économie, par exemple sur l'armement naval, qui en Grèce pèse un certain nombre de choses. La Grèce est un pays dans lequel le recouvrement de l'impôt est largement nul ou inexistant, ou en tout cas inégalitaire et largement inefficace, ce qui d'ailleurs permet un trucage absolu des statistiques. Il est vrai, probablement vrai, que quand on prend les statistiques disponibles sur la Banque nationale et les instituts de statistiques nationales, il est probablement vrai que 43% des Grecs sont en dessous du seuil de pauvreté comparativement à leurs revenus légaux et déclarés. J'imagine que c'est pas le bonheur absolu et le nirvana, mais passons. Il est vrai que 58% des jeunes sont au chômage. Maintenant, quel est le pourcentage des jeunes qui n'ont pas d'activité rémunérée leur permettant de vivre? Ça, c'est une autre question. Bref, il y a, chez les Grecs, il y a un système qui est érigé en tricherie. Ce système est financé par de la dette. Et s'il y a bien quelque chose qu'on peut reprocher à l'Union européenne, c'est pas d'exiger de la dette des remboursements avec des choix et des sacrifices. C'est d'avoir financé sans jamais s'arrêter ce système qui ne pouvait pas être un succès. Arrive un moment où il faut rembourser. Arrive un moment où il y aura pas d'autres prêts. Et donc arrive un moment où il faut accepter une baisse drastique de son niveau de vie. Et ceci est d'autant plus terrible que lorsque les États sont faibles, eh bien les faibles trinquent les premiers. Et que quand un État est faible, ce sont les plus petits revenus et ce sont les moins protégés et ceux qui ont le moins d'autonomie de subsistance qui sont frappés de plein fouet par la crise. Pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour croire ça. Et donc oui, nous avons, comme on le voit en Espagne, nous avons des situations humaines, familiales, qui sont absolument tragiques et insoutenables. Et oui, nous pouvons effectivement, nous devons nous insurger sur le fait que des Européens, certains de nos frères européens, vivent aujourd'hui en voie de clochardisation parce que leurs États ont failli. Mais je ne voudrais pas, et je pense que nous ferions erreur d'en tirer comme conséquence que c'est le modèle libéral ou le modèle de l'économie raisonnée, hein, qui n'est pas de l'économie régulée, qui est à jeter avec l'eau du bain. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de nous expliquer que la Grèce vient de vivre dans le plus absolu des socialismes irresponsables pendant 30 ans. Comme ça ne va plus, ça fait 5 ans qu'on essaye de lui faire avaler de force des potions libérales sur le thème arrêtez de distribuer un argent que vous n'avez pas, recouvrez l'impôt, remettez l'église au milieu du village en termes de fiscalité et vendez ce que vous ne devriez pas gérer sous tutelle étatique. Je ne suis pas dupe du fait qu'un certain nombre de prédateurs s'organisent pour essayer de faire main basse sur des actifs stratégiques à fort intérêt. Mais ça fait 5 ans qu'on essaye de mettre en place une politique, on va dire, libérale. Le gouvernement Samaras, qui vient de perdre les élections, s'est courageusement attaqué au problème. Il est possible d'ailleurs que ce soit Syriza qui bénéficie des fruits de ce travail. Mais ça, c'est la loi des alternances en démocratie. Et je ne voudrais pas qu'on nous explique que la victoire de Syriza, c'est la démonstration que la potion du libéralisme doit être honnie et rejetée. Or, c'est cela que nous avons entendu. C'est cela que nous avons entendu dans nos journaux et dans les déclarations de nos hommes politiques. Je ferai la comparaison, c'est exactement le même raisonnement où on nous explique que du fait d'une immigration incontrôlée, d'un début de communautarisme et du fait que nos frontières soient ouvertes à la mondialisation, nous avons une radicalisation d'un certain niveau, d'un certain type de comportement du côté des invités, de ceux qui sont auto-invités avec le communautarisme, et du côté, bien évidemment, des petits blancs qui commencent à en avoir marre. Et donc, ce que traduit le vote FN. Et donc, on a entendu, ça fait 3 semaines qu'on entend ça, ça a mis à mal notre vivre ensemble. Et quelle est la solution qu'on nous préconise? C'est plus d'immigration, c'est plus d'intégration, c'est de casser encore plus ce qui fait nos identités, etc. Je voudrais qu'on comprenne qu'intellectuellement, ce que nous reprochons et nous combattons sur le terrain de l'immigration, le raisonnement qui est ici, c'est le même que nous avons plus ou moins accepté en entendant les différents commentateurs politiques se féliciter de Syriza. Et je dois dire que il y a quand même des aspects positifs, hein. Il y a quand même des aspects positifs. Mais pour finir, je vais y revenir. Mais pour finir sur la Grèce, je rappellerai quand même que l'Irlande, le Canada, la Nouvelle-Zélande, chacun de ces pays, et même d'une certaine manière l'Allemagne, chacun de ces pays, plus ou moins touchés par la crise, a décidé, pendant une décennie pour l'Allemagne qui y allait plus doucement que l'Irlande ou le Canada qui ont fait ça très fort, ont fait de vrais sacrifices. De vrais sacrifices sur la dépense publique, de vrais sacrifices sur le nombre de fonctionnaires, de vrais sacrifices sur les prestations, de vrais sacrifices en Allemagne sur les salaires. Ces sacrifices n'ont été faits nulle part dans les pays de type Espagne, Grèce, etc. Aujourd'hui, ils subissent la crise, mais il n'y a pas de fatalité. Au bout d'un moment, ça ne marche plus et il va falloir accepter une baisse drastique des niveaux de vie. Moi, je souhaiterais simplement que la Grèce, que l'exemple grec nous serve, car je ne suis pas du tout certain que notre pays, la France, ne soit pas en capacité de se mettre dans une telle situation si rien n'est fait dans la dérive des comptes publics. Ça, c'est la première chose.
Ça ferait exploser l'Europe.
Mais enfin, je
pas le cas de la Grèce. Hein,
non, mais je vais revenir. On est capable de la gérer. Écoutez, moi, j'attends de voir. Hein, je vous signale que tous ceux qui sont capables de gérer, il s'est passé quelque chose pendant que nous, on a passé 15 jours à nous exciter sur Charlie, pas Charlie. On refait une couverture de Charlie Hebdo. On comprend pas pourquoi le monde entier nous crie dessus avec la deuxième couverture et que et puis on s'interroge. On comprend pas pourquoi le monde entier ne désire pas notre modèle de démocratie, de liberté d'expression, de tout ce qu'on veut, sans d'ailleurs, parenthèse dans la parenthèse, mais ce que je trouve affligeant de paresse intellectuelle, mais y compris parfois dans notre propre camp, c'est que le sujet est bien moins un choc de civilisation qu'on veut bien le dire. Le sujet n'est pas les pays de liberté d'expression contre les pays de blasphème. Le sujet, bien sûr que ça existe, mais le sujet d'abord, notamment dans la rue musulmane et à l'heure de la mondialisation où la rue musulmane de Peshawar elle est connectée à la rue musulmane de Garges-lès-Gonesse, c'est que la rue musulmane elle sait très bien que ce que nous appelons la liberté d'expression est une escroquerie. Et elle sait très bien que sur un certain nombre de questions, il n'y a pas de liberté d'expression en France. Et eux savent ce que les citoyens français ne savent pas, à savoir que des historiens sont allés en prison en France pour des idées. Ils le savent. Alors, c'est bien, c'est pas bien, je ne sais pas, mais c'est le double standard. Et ce double standard, c'est la marque de fabrique du modèle occidental. Et vous savez que par modèle occidental, ce n'est pas le modèle de la vieille Europe auquel je pense qu'on se réfère, mais ce modèle occidental de la démocratie, des droits de l'homme, etc., fonctionne avec le double standard, que ce soit vis-à-vis des Russes, pas sur le sujet de la liberté d'expression, mais sur les règles démocratiques, et fonctionne avec notamment la rue musulmane ou les autres pays musulmans, où nous faisons des grandes déclarations d'amour à la liberté, mais ces gens-là savent que quand on considère ce qui se passe dans le conflit israélo-palestinien et quand on fait les totaux des morts des uns et des morts des autres, des actions des uns et des actions des autres, de la légalité prétendue ou non des uns et de la violence d'État des autres, on voit bien qu'il y a double discours, double standard et qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels la liberté d'expression n'existe pas alors que nous la défendons. Et donc, je ferme la parenthèse puisque c'est pas du tout ça que je voulais raconter. Je voulais terminer mon histoire
Les auditeurs de Radio Courtoisie se seront intéressés.
Et donc,
on avait dit qu'on n'allait pas en parler, mais enfin, vous en avez parlé.
Et donc, pour autant, oui, c'est ça que je voulais dire. C'est que pendant que en janvier nous étions pris par ces histoires de Charlie & Co, il y a une décision absolument considérable qui est la décision de la Banque Centrale Européenne de racheter de la dette souveraine des États. C'est-à-dire que la Banque Centrale Européenne puise dans sa caisse. Mais qu'est-ce qu'elle n'a pas ? Qu'elle finance par sa propre dette. De l'argent qui va permettre de racheter la dette des États endettés. Puisque, effectivement, ça fait un certain temps que cette idée géniale a germé dans un certain nombre de cerveaux, qui est de dire, mais l'entité juridique, l'entité de l'Union Européenne, elle est vierge, elle n'a pas de dette, donc youpi ! Youpi ! Quelqu'un a endetté. Bon. Cette décision est sans aucune... ne s'accompagne pas d'une évaluation pratique des conséquences.
Non, elle a été précipitée.
Personne ne sait où
ce que ça va donner.
La Banque Centrale Européenne va injecter par mois, pendant je ne sais pas combien de mois, mais plus de 12, 60 milliards d'euros en rachetant les dettes des pays souverains. C'est la dernière cartouche. C'est effectivement la dernière cartouche. Je pense qu'il y a d'autres éléments qui me paraissent intéressants dans la victoire de la Grèce. C'est que, à l'évidence, la Grèce va devoir chercher, et elle a commencé à le faire dès aujourd'hui, la Grèce va chercher des appuis ailleurs que dans l'Union européenne.
Et on a vu les contacts avec
avec les Russes. Je rappelle que la première personnalité officielle rencontrée par Alexis Tsipras a été l'ambassadeur de Russie à Athènes, en Grèce.
Et là, on retrouve une vieille tradition des Grecs.
Et on retrouve absolument cette vieille tradition, cet axe orthodoxe qui existe et que les Grecs ont toujours cultivé. Mais il y a également une volonté de contournement de l'Union européenne par les États-Unis. Les États-Unis qui ont eux aussi tout intérêt à ce que les États européens continuent à faire tourner la planche à billets et financent leur croissance pour financer le moteur américain. Et donc il y a là, me semble-t-il, une faille dans le système européen, une menace dans le système européen. Je ne dis pas qu'il n'en sortira pas grandi, mais en tout cas, entre la dernière cartouche qui est celle de la BCE, le fait que de toute façon l'Union européenne devra intégrer la volonté politique grecque. On a vu que le premier geste, un des premiers gestes du nouveau ministre des Affaires étrangères du gouvernement grec a d'abord été de dire à l'Union européenne, pop, le communiqué signé des 28 sur les sanctions contre les Russes, là. On nous a pas demandé notre avis. Donc ça va pas se passer comme ça. Et d'ailleurs, on n'est pas d'accord. Alors ils ont fini par signer 3 jours après un communiqué. Et donc ça, c'est la première chose. Les Hongrois vont se sentir un peu moins seuls. Je vais en reparler. Deuxièmement, ce même ministre des Affaires étrangères a quand même déclaré que lui, une Ukraine fédéralisée, ça lui posait pas de problème. Enfin bref, les Grecs vont vendre chèrement leur peau. Je me mets à leur place. Il est logique qu'ils mettent dans la balance leur soutien ou leur absence, leur soutien aux Russes ou en tout cas leur absence de condamnation systématique des Russes.
Philippe, là-dessus, on avait fait une émission très intéressante sur la Grèce. La Grèce, et notre universitaire nous expliquait que, vu sa position géopolitique et géographique, la Grèce a toujours manipulé par rapport à ses dettes, a travaillé soit avec les Américains, soit avec les Russes, et ont toujours joué à ce jeu-là. Ça fait partie de l'histoire de la Grèce, et j'ai l'impression que les Européens, et alors nos amis du front de gauche, sont en train de découvrir ce que c'est que la géopolitique d'un pays, quoi.
Oui, mais donc on voit bien d'ailleurs que, comme en toute chose, la paresse intellectuelle et l'éclat médiatique n'est pas bon conseiller. Et pour revenir aux réactions des partis politiques, je dois dire que j'ai été très déçu de la position prise par le Front National, par Marine et par son auguste papa, qui n'a pas été bon sur ce coup-là. Et alors que d'habitude, on peut compter sur lui pour réfléchir un poil plus vite que la réaction BFMique du Philippot de service.
Je pense que les auditeurs de Radio Courtoisie ont dû aussi être surpris par sa réaction.
Et donc, ce qui est intéressant, c'est que celui qui a dit la chose la plus intéressante, et c'est quand même souvent le cas, c'est Guénot. Et ce que dit Guénot n'est pas de dire il y en a marre de l'austérité, les Grecs ont bien fait d'avoir voté pour ceux qui leur promettent la fin de l'austérité. Il a dit les peuples reprennent la main. Les peuples vont reprendre la main. Et ce qui est certain, c'est que bien évidemment que le peuple grec s'est fait une douce violence ces dernières années pour se contenter de la situation qui l'amène aujourd'hui. Au bord de la tombe, mais de la même manière que nos enfants auront passé une jeunesse extraordinaire et se rendront compte quand ils auront l'âge adulte que nous les avons emmenés dans une espèce de situation sans fin et de dépression économique et de chute de leur niveau de vie. Mais ce qui est certain en tout cas, c'est qu'à aucun moment le peuple grec ne s'est prononcé sur les principales options qu'il aurait pu ou dû choisir. Et je trouve d'ailleurs que il eût été assez facile, me semble-t-il, au Front National de saluer la victoire de Syriza, non comme une revanche sur les marchés, l'austérité, enfin dans cette espèce de logorée un peu marxisante qui est un peu fatigante à vrai dire, mais on aurait pu tout à fait saluer cette victoire en disant voilà, le dispositif de l'Union européenne s'effrite, c'est un coup de boutoir supplémentaire. Et de toute façon, et là on rejoint de toute façon la vision qu'a le FN, que nous sommes là pour faire turbuler le système, comme disait Chevènement, ou en tout cas pour essayer de trouver des voies de passage dans un système qui est de plus en plus rigide et qui pèse. Et on aurait trouvé d'ailleurs un certain nombre, j'exagère peut-être, mais enfin des premiers alliés. Il s'est passé quelque chose de tout à fait intéressant avec la Hongrie. Décidément, la Hongrie ne nous déçoit pas. La Hongrie ne nous déçoit pas, puisque Viktor Orban, alors il a bien organisé son agenda, il a reçu Angela Merkel, c'est-à-dire en fait les Américains, il les a reçus le 2 février, et puis le 17 février, il reçoit les Russes. Et vous savez que la Hongrie est toujours, depuis le début, outre le fait que c'est le pays de cette espèce de révolution conservatrice, qui a d'ailleurs, bien avant les Grecs, réalisé, et bien avant une situation de crise, réalisé la belle opération qui consiste à renationaliser et se réapproprier l'ensemble des moyens technologiques, des technologies de souveraineté, des entreprises de souveraineté, les réseaux de gaz, les banques, les réseaux d'électricité, etc. Et donc, Orban a eu une passe d'armes assez, assez intéressante sur la notion justement de libéralisme avec Angela Merkel. Et les citations sont assez intéressantes. L'enjeu du débat, c'est Orban vante le concept de démocratie non libérale. Il prend des exemples, il prend l'exemple de la Turquie, il prend l'exemple de la Chine. On voit bien qu'il a en tête aussi l'exemple de la Russie. Et alors, lors de la conférence de presse, Madame Merkel dit honnêtement, non libérale et démocratie ne peuvent pas, selon moi, aller ensemble. Les racines de la démocratie sont toujours, entre autres, dans le libéralisme. On ne va pas faire un cours de philosophie politique à Angela Merkel, puisqu'on sait bien qu'elle n'est pas là pour convaincre, mais elle est là pour asséner. Ce qui est intéressant, c'est que Orban ne s'est pas démonté. Il a répondu, nous ne pensons pas que la démocratie soit nécessairement libérale. Ceux qui le prétendent privilégient un seul système de pensée et nous ne pouvons pas y souscrire. Ce qui est certain, c'est que il y a derrière Viktor Orban qui a un petit peu molli dans les sanctions à la Russie, puisqu'il a, sur consigne de Moscou, suspendu les livraisons de gaz à l'Ukraine. Finalement, il les a rétablies. Bon, il a lui-même à renouveler son contrat avec Gazprom dans les mois qui viennent, alors qu'il est dépendant à 90% du gaz russe. Enfin bref, il y a là, de la part de la Hongrie, quelqu'un qui aimerait bien ne pas tomber dans l'aveuglement anti-russe vers lequel on nous emmène. Il faut se rappeler des Italiens. Je rappelle que Federica Mogherini, qui est la nouvelle madame politique étrangère de l'Union européenne, avait été plus que critique sur l'hystérie anti-russe, et ça a failli lui coûter d'ailleurs sa nomination, mais le président du Conseil, Renzi, avait veillé au grain. Donc il y a là, me semble-t-il, des bonnes nouvelles sur fond de situation militaire compliquée. Je vais faire vite puisque je vois bien que,
bah oui, le temps passe.
Que le temps passe. Je vais faire vite. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on a tendu l'élastique au maximum. On a tendu l'élastique des sanctions, on a tendu l'élastique d'une situation militaire avec de réels combats sur le front, une armée ukrainienne qui est non seulement sous-équipée, mal commandée, mais qui est en véritable débandade quand on regarde les chiffres réels des mobilisations de conscrits que veulent obtenir les Ukrainiens, personne n'y va. L'État est au pays, le pays est au bord de la banqueroute et les Russes ne mollissent pas. Personne ne veut de solution militaire. Je pense que nous n'aurons pas de solution militaire et je pense que les Russes sont en train de gagner, mais à quel prix ? C'est toujours pareil. On voit bien d'ailleurs dans l'ensemble des discours, voilà, le après est celui que nous décrivons à ce micro depuis X temps. L'enjeu des Russes depuis le discours de Prague d'Obama et les livres blancs du département du Pentagone, l'enjeu des Russes, c'est nous allons quitter cette zone stratégique, créons la frontière, la plaie la plus béante possible. C'est ça qui est en train de se passer, avec une remobilisation aux confins et aux frontières des Polonais, des Slaves, des Baltes, avec une Ukraine qui, même si elle est en partition, restera revancharde et sous perfusion, et des Russes à qui la sauvegarde de leur littoral sur la mer Noire en sus de la Crimée aura économiquement coûté cher, même si en termes de prestige, s'ils vont au bout, ils auront probablement gagné. Ce qui est intéressant quand même, c'est de voir que les pays européens, France et Allemagne au premier chef, ne veulent pas, clairement pas, de solution militaire, et que je pense que nous allons finir par arriver à une solution. Je n'exclus pas une livraison des Mistral d'ici 12 mois. Pas dans 12 mois, pas de 10, entre, bon, il ne se passera rien avant 12 mois, mais je pense que c'est comme ça que ça va se terminer.
Ça y est, c'est dit, c'est enregistré, et nous verrons bien.
Et alors, surtout, avant de passer la parole à mon auguste successeur à ce micro, je voulais partager avec vous un véritable soulagement. Un véritable soulagement et une fierté.
Avec les auditeurs de Radio Courtoisie.
Et une fierté parce que De temps en temps, on est critique sur nos institutions des pays européens et il y a des institutions qui fonctionnent. Je pense à la justice notamment. Il y a la lutte contre le djihadisme, la lutte contre le trafic de drogue, la lutte contre le terrorisme à nos portes. On a besoin d'avoir une justice qui fait son travail. Et je suis fier d'appartenir à l'Union européenne dans laquelle il y a une justice qui fait son travail, parce que la nouvelle est tombée. Heureusement, on va pouvoir respirer. On va pouvoir juger le dernier gardien d'Auschwitz. Il a 93 ans. Il était comptable. Ça fait 40 ans qu'il vit au même endroit en Allemagne. Personne ne lui a rien demandé. Mais comme il n'y a plus personne pour faire le cirque et que c'est l'anniversaire, c'est la victime expiatoire. Et donc le gars, il a 93 ans. Il va passer en procès. La justice passe. Nous sommes fiers de la justice des démocraties européennes. Vraiment, je voulais partager ça avec nos auditeurs. Avec tout ce qu'on a vécu, l'effet Charlie, notre civilisation, le pardon, la justice, les valeurs les plus nobles, eh ben voilà, on va juger un pauvre gars de 93 ans parce que il comptait des liasses de bons de commande pendant son service militaire. Voilà, je suis fier d'être européen. Je suis pas Charlie, mais je suis fier d'être européen. Vraiment, je voulais qu'on le partage.
Oh ben voilà, c'est une belle conclusion. On va juste faire une petite pause et on va retrouver pour tous les auditeurs de Radio Courtoisie notre troisième partie d'ici une poignée de secondes. Cette troisième partie des chroniques de la vieille Europe, toujours avec Philippe Christel et Pascal Essérick. Alors dans cette troisième partie, on est très content d'avoir au téléphone Laurent Chang, qui est journaliste à la revue Élément, mais aussi responsable des éditions Le Polémarque. Est-ce que vous m'entendez, Laurent Chang ?
Bonsoir, je vous entends très bien.
Alors, c'est Pascal qui m'a donné cette nouvelle. Il paraît que vous allez sortir un inédit de Jean Mabir. Est-ce que c'est une vraie info ou une rumeur?
Alors, m'aurait plus de vous dire que c'était une fausse information, mais c'est une vraie information.
Ben oui, c'est une belle découverte, celle que notre ami Laurent Chang a faite. Donc il anime, vous l'avez dit, les éditions du Polémarque. Il s'apprête à publier un manuscrit inédit de Jean Mabir intitulé Drian d'Henrite, et qui porte sur la double vie d'Émile Drian, officier bonapartiste républicain socialiste le jour, et romancier d'anticipation à succès la nuit. Alors Laurent Chang, effectivement, était évidemment le mieux placé pour nous parler de cet événement littéraire. Et avant tout, j'aurais aimé, cher Laurent, que vous nous racontiez dans quelles circonstances vous avez reçu dans quel mal vous avez découvert ce manuscrit.
C'est déjà une assez longue histoire, puisque du vivant de Jean Mabir, celui-ci m'avait déjà parlé de son projet, qui était déjà... Quand j'ai fait la connaissance de Jean Mabir et quand nous avons entamé notre longue correspondance, puisque nous avons surtout eu une amitié...
Épistolaire,
exactement. Vu les distances, il m'a assez rapidement parlé d'un travail que d'abord il nourrissait et qu'ensuite il a réalisé, concernant donc effectivement Drian d'Henrite. Il m'en a parlé pour deux raisons. C'est que la première, moi je l'ai abordé pour toutes les thématiques militaires qui parcouraient son œuvre, et lui-même m'a relancé sur ce sujet parce que je suis lorrain, et parce que c'était entre nous une sorte de point de jonction. Il m'a interrogé sur d'Henri, qu'il connaissait déjà de toute façon très bien, puisque entre d'Henri et lui c'était une vieille histoire. puisque son premier article, son premier travail sur Drian Dhorit remonte quand même déjà à Europe Action.
D'accord.
Un texte qu'on retrouvera d'ailleurs en annexe du petit livre que je m'apprête à publier. Donc nous n'avons pas cessé d'en discuter. Et puis, à sa mort, c'est Catherine, son épouse, Catherine Antique, qui a pris le relais, qui a récupéré le texte, et puis qui l'a effectivement du coup rangé dans une malle. Et c'est grâce à une tierce personne, mon très cher ami Bernard Levaux, qui a longtemps été l'animateur très énergique des Amis de Jean Mabir, notamment de la publication du magazine des Amis de Jean Mabir. C'est grâce à lui que finalement Catherine a accepté de rouvrir la malle au manuscrit de Jean Mabir, qui est à mon avis encore une malle au trésor dont on n'a pas fini de découvrir des pépites. Et Catherine a fini par accepter donc de me confier ce livre après avoir vu que le Polémarque était quand même une maison... petite maison, mais...
Sérieuse. Maison
sérieuse et méticuleuse, voilà, effectivement.
Exactement. Et qui plus est, dans un spécialisé dans ce domaine de l'histoire militaire, de la réflexion autour des questions liées au domaine militaire. Ça coïncidait aussi chez elle avec la publication de deux autres livres qui ont paru l'année dernière, en 2014. Comme elle souhaitait sans doute pas mettre... ses œufs dans le même panier. Oui. Elle m'a confié ce manuscrit. Donc voilà, c'est une assez vieille histoire déjà. Je connaissais la genèse de ce texte. Je savais qu'il était en cours de route quand je m'entretenais avec Jean Mabir. Et puis j'ai eu vraiment le grand honneur de voir le texte m'arriver au courrier au mois de novembre avec. En bonus, la maquette de la couverture telle que Jean Mabir l'avait lui-même composée, faite de collages sur des cartonnages. Maquette donc de couverture que j'ai également respectée au mieux.
Alors, parlons maintenant de ce fameux Émile Drian et surtout de sa double vie.
Oui, très riche, très très riche. D'ailleurs, Jean Mabir a vraiment composé un livre qui, de ce point de vue-là, est très réussi parce que c'est à la fois... La première partie est une biographie et la deuxième partie est une bibliographie, donc on peut presque dire une bio-bibliographie. Drian, c'est d'abord, effectivement, c'est un enfant de la revanche, c'est un enfant de 1870. C'est un bourgeois de province qui s'engage dans l'armée comme toute sa génération, mais comme une grande partie des fils de sa génération. Donc il n'est pas forcément lui-même né dans une famille militaire, mais il a été marqué au fer rouge par la défaite de 70, lui-même né en 75. C'est un peu une démarche analogue à celle d'un pays, par exemple. C'est que toute sa réflexion politique, tous ses engagements ultérieurs seront liés à cette défaite qu'on a du mal aujourd'hui à s'imaginer, parce que 1940 est passé par là, mais qui est leur 1940 à eux. Donc il mène une carrière militaire... brillante dans l'infanterie, dans les chasseurs, il fait campagne pendant les guerres de colonisation. Il s'ennuie pas mal d'ailleurs, mais il y rencontre Boulanger, général Boulanger, le fameux Boulanger qui va devenir son beau-père et qui va l'emmener, qui va l'embarquer avec lui donc dans toutes ses aventures, aussi bien de réorganisation de l'armée que politique. Donc il est bonapartiste, il est surtout boulangiste. Et qui va l'emmener aussi embarquer dans sa chute, puisque quand Boulanger se suicide, hein, ce qui fera dire à Clémenceau qu'il avait il est mort comme il avait vécu, comme un lieutenant.
Un sous-lieutenant,
c'est terrible quand même, c'est terrible, hein, ce personnage. Quand même.
Ça, c'était Philippe Christel, hein, c'est la précision.
Ah, okay.
Hein.
Ah, ouais, bravo, bravo. Le plaisir de s'adresser à des gens qui comprennent ce qu'on leur dit. Et donc, la carrière de Drian est brisée. Est brisé, c'est aussi l'époque de l'affaire des fiches, l'affaire Dreyfus. Et il s'engage en politique. Et il s'engage en politique assez logiquement aux côtés de Desroulets et des Barrès. Il sera élu d'ailleurs député de Nancy. Hein. Donc là aussi, tout ça me relie à lui, puisque je suis nancéen. Mm-hmm. Enfin, je suis lorrain et je suis donc nancéen d'adoption. Au demeurant, j'habite juste à côté d'une place qui s'appelle Drian, pour l'anecdote. Là-dessus, il va greffer toute une œuvre littéraire d'anticipation militaire qui fera dire de lui qu'il est le Jules Verne militaire. D'ailleurs, c'est Jules Verne lui-même qui, dans sa correspondance, ça fera aussi partie des annexes que j'ai ajoutées au texte de Jean Mabir. C'est Jules Verne lui-même qui disait à Drian qu'il était le Jules Verne militaire. Et donc, il a greffé là-dessus, sur son engagement politique, toute une œuvre de réflexion et d'anticipation sur les questions géopolitiques, déjà à l'époque, géostratégiques et plus simplement militaires, en mettant l'accent sur la jeunesse. D'ailleurs, c'est fascinant de voir, quand on lit Drian, qu'il s'adressait aux enfants, aux jeunes, ce qu'on appelait pas encore les adolescents.
Oui, parce que c'est...
Quand on voit ce qu'il lit aujourd'hui, on mesure quand même le siècle qui s'est écoulé.
On se rend pas compte, mais Drian, c'était les livres qu'on offrait aux enfants à la fin de leur classe, comme prix. Ouais. C'était très populaire. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est une œuvre qui a quasiment disparu de nos bibliothèques.
Oui, parce qu'elle a contre elle, à l'inverse de Jules Verne, un caractère clairement militaire, clairement politique. Drian se sert de Dan Rith, qui n'est jamais que son anagramme littéraire, pour développer des idées qui sont celles de la revanche, même s'il y a chez lui une vraie fascination de l'Allemagne. Et il développe un discours, pas forcément un discours politique, mais en tous les cas une vision du monde.
Et puis je pense que mon cher Laurent, que vu les thèmes de certains de ces livres, ça aurait du mal. Par exemple, l'invasion noire, où c'est les populations d'Afrique noire soulevées par les Turcs envahissent l'Europe et ne seront stoppées que par des gaz asphyxiants lâchés par des dirigeables français. Je pense qu'on aurait du mal à republier dans une collection jeunesse ce genre de livres.
Ah, c'est certain. Personnellement, je m'y essayerais bien, mais non seulement je n'ai pas les moyens, mais je pense que je coulerais la maison d'édition, parce que évidemment, ce sont à chaque fois des livres qui font 1000 pages en petits caractères. C'était effectivement des volumes magnifiques qui soutenaient la comparaison avec les livres de Jules Verne, précisément, chez Hetzel. Ce sont des livres qui aujourd'hui sont recherchés par les collectionneurs. C'est pas un hasard si, comme par justement, j'ai découvert chez Jean-Jacques Langendorf l'intégrale. Chez mon maître Jean-Jacques Langendorf, l'intégrale de l'œuvre de Drian.
C'est pas étonnant, oui, c'est vrai.
Non, voilà, qui porte au nu, justement, c'est aussi son Jules Verne à lui. Effectivement, aujourd'hui, il y a bien des éditeurs qui se sont essayés. Les Belles Lettres, notamment.
Oui.
Mmh. Ouais, les Belles Lettres ont réédité Évasion d'Empereur et L'Ordre du Tsar. Mais ce sont des livres assez gentillés, qui n'ont pas, effectivement, le côté sulfureux qu'ils avaient déjà à leur époque, hein, cela dit. Faut pas croire, mais bon. Il semblerait qu'à l'époque on pouvait encore dire des choses que qu'aujourd'hui on ne peut plus. Et effectivement, c'est très sanguinaire aussi. Les morts sont par centaines de milliers dans l'œuvre de Drian.
Alors, il s'intéressait à tout ce qui était stratégie. Enfin, son premier livre, ça s'appelle La guerre de forteresse. Il s'intéresse énormément à cette stratégie de l'armée.
Absolument. Bah, d'abord parce que c'est lui-même un militaire. Il commence à écrire. Toute sa vie, il écrira « Capitaine Dan Rith » sur ses couvertures, mais vous trouverez, entre parenthèses, « Commandant » et plus tard « Lieutenant-Colonel Drian ». Son dernier livre, d'ailleurs, sera « Lieutenant-Colonel Drian », et il l'écrit dans les tranchées de Verdun, en 1915, avant que l'offensive se déclenche. Robinson souterrain, qui se passe à Metz, d'ailleurs, est sous-titré « Lieutenant-Colonel Drian ». Donc, « Capitaine Dan Rith », « Commandant Drian ». Il va de soi qu'il parle de choses qu'il connaît très bien, de l'intérieur. Comme il se passionne pour ces sujets, et qu'il connaît son sujet, ses sujets, effectivement, toute son œuvre est parcourue de réflexions sur l'armée. Des fois, ça peut même paraître... il est capable de s'arrêter pendant 4 pages sur les tailles techniques de tel ou tel fusil qui, à l'époque, faisait son apparition. Ce qui, aujourd'hui, là aussi... pourrait laisser le lecteur assez médusé. Il prend énormément de plaisir. C'est une sorte de c'est une Balzac de l'armurerie, si vous voulez. Moi, personnellement, je me régale, évidemment, en lisant ça.
Alors, il y a des livres extraordinaires. Par exemple, il y a L'invasion jaune, Les Japonais soulèvent la masse humaine chinoise et indienne contre l'Europe. Parce qu'ils voient bien que le Japon a quand même une supériorité militaire. Et le roman se termine par le succès des armées sino-japonaises sur la meilleure armée européenne, celle de l'Empire allemand. Exact. Et donc, c'est la fin de la prédominance de l'Europe. Il a plein de scénarios comme ça incroyables.
Oui, parce que après justement ce fameux livre dont vous, que vous citiez, Guerre de forteresse, qui en fait fait partie de... d'une trilogie qui s'appelle La guerre de demain, où là justement il parle presque en ingénieur, il se lance effectivement dans deux sagas, l'invasion noire et l'invasion jaune, qui sont là aussi très marquées par l'époque, c'est-à-dire que Drian, même s'il est par la force des choses germanophobe, non d'ailleurs il n'est pas germanophobe, mais
il est très admiratif des Allemands.
Il est revanchiste, revanchard, mais effectivement il est très admiratif. D'ailleurs il écrira un petit livre Vers un nouveau Sedan dans lequel il ne cache pas son admiration pour l'armée allemande. Par contre effectivement il est très imprégné du péril jaune, ce qui était également le cas de Guillaume II. Hein. Et donc effectivement il craint énormément les Japonais. Il a vraiment une peur fantasmatique des Japonais. Qu'il considère comme pouvant embraser toute l'Asie et jeter sur l'Europe les hordes sino-mongoles. Et les Allemands sont les derniers à être, effectivement, ça ne résiste pas longtemps, mais sont les derniers effectivement à résister. Sachant que chez Drian, le vrai ennemi héréditaire de l'Europe, ce n'est pas l'Allemagne, c'est l'Anglais. Drian a une détestation des Anglais qui...
Oui, il a fait un livre qui s'appelle La guerre fatale, et qui date de 1898, où le rôle prédominant, enfin c'est la guerre entre la France et l'Angleterre, le rôle prédominant c'est les sous-marins. Donc il avait aussi déjà des là-dessus...
Il avait tout perçu. Il avait même senti la guerre éclair. Il avait déjà, pas théorisé, mais il avait déjà senti que la guerre de demain serait justement une guerre de vitesse, une alliance de choc et de feu, et qui serait à la fois au sol et dans les airs. Absolument.
Une question de Philippe Christel.
Oui, ce qui est, je trouve, assez fascinant avec un personnage comme Drian, vous citiez tout à l'heure Clémenceau, donc citation pour citation, c'est Clémenceau qui disait que la guerre était une chose trop sérieuse pour être confiée aux militaires, et que il y a chez Drian un certain nombre de réflexes qui sont en fait des réflexes de tétanie et des réflexes mortifères, et qui sont les mêmes que ceux qu'on va retrouver dans les patriotes sincères de l'action française de l'entre-deux-guerres. Je m'explique. Voilà quelqu'un qui a une grande lucidité sur son époque, avec une capacité d'anticipation très forte. Elle est à la fois technique, comme vous le dites, mais elle est à la fois géopolitique ou stratégique, en étant capable d'imaginer effectivement des grands ensembles démographiques pouvant déferler sur la vieille Europe. Et je dirais que sur ce sujet-là, Drian est particulièrement lucide, puisque l'heure est plutôt à la glorification des troupes coloniales, la fameuse force noire de Mangin qui va prendre les relais des vieux fils de paysans, des tranchées, de l'Artois et de la Somme pour bouter l'alboche du territoire national. Donc lui, il a plutôt un discours qui est en transgression par rapport à cette croyance dans le renfort de nos bonnes vieilles colonies. Et pourtant, alors c'est pas ça qui va l'empêcher de faire son devoir, et il va le faire admirablement au bois des corps en tombant à la tête de ses hommes, mais et pourtant il ne voit pas venir l'embrasement cocardier et la politique des va-t-en-guerre, comme ne l'a pas vu un Déroulède, et comme ne le verront pas non plus. Alors je dis pas en 1939, parce que 1939 c'est trop tard, mais comme ne le verront pas en 32, 33, 34, 36, toute l'école de l'action française, qui était des gens qui étaient capables de faire des analyses tout à fait pertinentes sur la civilisation européenne, sur la nécessité de préserver cette civilisation dans un monde plein de dangers, eh bien la revanche, le cocardier, le chauvinisme, et surtout, il faut le dire, la haine de l'Allemagne, poussera les uns et les autres à, non pas pousser à la roue de la grande tragédie, mais à laisser faire et à considérer que, eh bien, malgré tout, il fallait emmener les fils et filles de France à la boucherie. Il y a quelque chose d'assez, encore plus étonnant chez Drian d'Henri, parce qu'il a une lucidité que n'ont pas les autres. Et in fine, il y a cette espèce d'abandon
Et c'est ça qui est fatigant avec les militaires d'une part et les intellectuels d'autre part, c'est leur incapacité à transformer dans une action politique les conséquences auxquelles leur analyse les a amenés.
Oui, je vous dirais effectivement, lucidité, oui. Mais tout le travail de Drian Dorit, qui est un incroyable travail de vulgarisation à destination notamment du jeune public, s'explique par le fait que, à l'inverse des intellectuels et des militaires fatigués de 1939, lui justement se situe avant 1914. Et lui veut la guerre. Lui, il l'espère. Il n'est effectivement pas de ceux qui craignent la guerre. Il est de ceux qui l'appellent de ses voeux. C'est l'appel aux soldats, justement, c'est un barésien. Et seulement, effectivement, là où on peut dire qu'il est aveugle, c'est que lui qui est fasciné par la technique, effectivement, il ne voit pas que la technique va dévorer l'homme. Et que ce n'est pas l'homme qui va finir. Que la prochaine guerre ne sera pas une guerre où la technique sera au service de l'homme, mais l'homme sera au service de la technique. Et effectivement, on peut considérer que pour quelqu'un qui a aussi bien analysé que lui, par exemple, la guerre russo-japonaise, ou la guerre, l'armée allemande, qui voit les failles, les faiblesses terribles de l'armée française, et pas si terrible que ça d'ailleurs, mais enfin terrible quand même des années 1900.
Enfin, y compris des doctrines d'emploi en 1914, hein, parce que une faiblesse tactique absolument monstrueuse.
L'offensive à outrance, oui, absolument.
Alors l'avantage, c'est qu'à cette époque, les colonels de l'école de guerre doctrinaires, le 2 août 14, prenaient la tête des régiments et prenaient la bastos en même temps que le Bifin. C'est quand les guerres se sont un peu technicisées, le Bifin continuait à crever les pattes en l'air et le général était, alors il était fait prisonnier en 39, et puis arrive l'armée ultime où il n'y a plus que des généraux, donc ça ce sont nos armées à nous. Je ferme la parenthèse.
Mais Drian se situe effectivement entre deux périodes. Il est fasciné par la technique, mais il reste un enfant de l'ère napoléonienne.
Oui, parce que ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il va faire la Première Guerre mondiale, mais à l'époque, il a 59 ans. Et en fait, il n'aurait pas dû la faire, et c'est lui qui va tout faire pour pouvoir partir sur le front.
Absolument, il se rengage. D'ailleurs, on l'envoie, il se rengage chez les chasseurs, qui est une arme d'élite à l'époque. Il est nommé lieutenant-colonel à cette occasion, et il est envoyé à Verdun, en 1915, pour tenir donc là, effectivement le Bois des Corps, qui est une zone à l'époque très calme, sous-équipée, puisque Joffre a fait retirer toute l'artillerie des forts. Et bon, on pense qu'il va se tenir là. Et finalement, c'est lui qui va recevoir les premiers coups. Enfin, quand on dit premier coup, il va recevoir le premier million d'obus que les Allemands vont leur envoyer sur quelques kilomètres carrés.
L'éternelle préscience des états-majors français, on peut tout enlever, il se passera rien. Exact. 20 ans plus tard, non, par la Meuse, ils passeront pas, vous inquiétez pas.
Ouais, oui. C'est-à-dire qu'à cette époque.
Et ça continue. Les mecs qui font Saint-Cyr tous les ans et ça recommence.
C'est-à-dire que Joffre, à cette époque, machinait déjà l'offensive de la Somme avec les Anglais. Donc il avait besoin des canons. Ce qu'il n'avait pas vu venir, c'était l'offensive des Allemands en face.
Quoi. Oui.
Effectivement.
Oui, c'est les ballons.
Pour terminer sur le côté, justement, sur le manque de lucidité de Drian, et je reviens à ce que je disais par rapport à l'ère napoléonienne, effectivement, c'est un homme des grandes offensives, c'est un homme des grandes charges de cavalerie. C'est ce qui explique aussi sa fascination pour la Russie, pour l'allié russe. C'est encore quelqu'un, effectivement, qui voit... d'ailleurs, l'invasion jaune, l'invasion noire, c'est pareil. Ils voient encore des masses de millions d'hommes qui déferlent sur le champ de bataille et qui emportent tout sur leur passage. Il n'a effectivement pas vu. Et pourtant, ces récits sont truffés de bandes de mitrailleuses qui se déchargent, qui sabrent les troupes en face. Et malgré tout, effectivement, il y a déjà des mines, il y a déjà effectivement des bombardements aériens, il y a déjà l'électrification des barbelés. Mais il garde foi dans le cœur de l'homme et bon, effectivement, comme vous le dites, on verra le résultat en 1914. Mais ce qu'il y a, c'est que dans sa correspondance, ça ne transparaît pas du tout. C'est-à-dire jusqu'à sa mort en 1916, le 22 février, il ne remet pas en cause ses propres convictions.
En tout cas, on peut lui rendre grâce, indépendamment des critiques qu'on a passées. C'est voilà quelqu'un qui, Mabir aimait bien ce type de profil. Il a, pour le coup, il a mis sa peau au bout de ses idées, d'autant plus qu'il n'était pas, comme l'a rappelé Patrick, dans les âges où il eût été obligatoire de le faire. Et donc, chapeau bas lui soit rendu sur ce sujet.
Absolument. D'ailleurs, il était devenu très critique vis-à-vis de son ami Barrès. Puisque, à de nombreuses reprises, il avait invité Barrès à venir le rendre visite sur le front, à l'époque où il ne se passait rien, en 1915, puisqu'il a même réussi à écrire son dernier roman dans les tranchées. Et un jour, un soldat finit par lui dire « Mais Barrès, il va venir ou pas ?» Et sa seule réplique sera « Barrès, c'est un pleutre. » Même Barrès, effectivement, alors que Barrès avait le même âge, mais Barrès, c'était... On pourra dire ce qu'on veut, si on lui carnage ou pas. Effectivement, Barrès, lui, restait à l'arrière et a exhorté les foules, les masses. Trian, lui, effectivement, était en première ligne.
Alors, dernière question rapidement de Pascal Essérix, parce qu'il nous reste à peine 2 minutes.
Oui, c'est l'étonnement. Je voudrais... est-ce que vous n'avez pas été étonné, finalement, de voir Jean Mabir s'intéresser à un tel personnage qui était quand même à l'opposé de ses convictions, nationaliste.
Oui et non, parce que d'abord c'est l'écrivain. Et en premier c'est l'écrivain. Ensuite, quand on reprend toute l'œuvre de Jean Mabir, on peut retrouver des tas de personnages, des tas d'ouvrages qui finalement ne correspondent pas à l'idée un peu rapide qu'on se fait de Jean Mabir. Et ensuite, ce qui fascinait Jean Mabir chez Danrit, outre l'énorme capacité de travail, c'est aussi par-delà son nationalisme, son réalisme de l'époque, c'est reproduit in extenso dans le livre, ce sont des chapitres de conclusion qui, au contraire, exaltent une Union européenne fondée sur une idée impériale avec un retour aux petites patries. Donc en réalité, on retrouve aussi
On va vous arrêter, Laurent Chang, parce que le technicien, vous le voyez pas, mais qui est en train de me dire qu'on a terminé. Ça sort aux éditions Le Paul et Marc, Drian d'Henri, Jean Mabir. Le combien?
À la mi-février,
voilà. Et pour les gens qui s'intéressent les amis de Jean Mabir, ils peuvent avoir des renseignements au 15 rue de Breuil, 17 330 Bernay-Saint-Martin. Voilà, notre émission est terminée. On se précipite un peu, mais c'est la fin et on se retrouve dans 4 semaines, toujours sur Radio Courtoisie.
Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey.
Always look on the bright side of life.
Come on.
Always look on the bright side of life.
It's quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life. Always
we'll come from nothing. You know what I say? Cheer up, you old bugger. Come on, give us a quiz. There you are. See? The end of the film. Incidentally, this record's available in the foyer. Some of us got to live as well, you know. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.